Chapitre 6 Mener le bon combat. Le baptême est l'initiation qui nous fait entrer dans le mystère de l'amour de Dieu pour nous et de notre amour pour Dieu, pour les autres et pour nous-mêmes. Plus on progresse vers le sommet de l'action dramatique baptismale, à savoir le rite de l'eau et l'invocation de la Trinité, plus cet amour se révèle graduellement comme plus beau et plus exigeant qu'on aurait pu l'imaginer. Cet amour implique que l'on accepte l'obéissance au commandement de Dieu, ce qui n'est pas une contrainte imposée à notre comportement, une soumission au dictat d'un policier divin, mais notre éducation à l'amitié. Puis, le candidat au baptême est marqué pour le Christ. Les parents de l'enfant en font le don pour qu'il appartienne au Christ et à l'Église, et finalement à toute l'humanité qui se rassemble pour ne faire qu'un dans le Christ. L'amour dans lequel je suis baptisé n'est pas simplement le plaisir particulier que je prends en telle ou telle personne ou même en Dieu. Nous sommes baptisés dans le mystère de l'amour universel de Dieu, un amour sans frontières. Maintenant, avec la prière d'exorcisme, nous entrons dans des eaux plus agitées. On invoque le Père qui a envoyé son Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal. Et on prie pour que la personne qui va être baptisée soit rachetée du péché originel. Voilà bien de quoi rendre nos contemporains mal à l'aise. Le mot « exorcisme » évoque des films comme « L'Exorciste » ou « Rosemary's Baby », de terribles batailles contre Satan, des meubles balancés partout, des rires horribles et des cris effrayants. Ce n'est pas ce que l'on attend au baptême, où les seuls cris sont vraisemblablement ceux du bébé, choqué de se faire arroser par un affreux étranger. On peut aussi se sentir mal à l'aise devant l'association qui est faite entre la religion et le combat contre Satan. Notre monde est déchiré, disloqué par la violence qui s'enracine souvent dans des croyances religieuses aux tendances belliqueuses. Oliver McTernan a écrit « De l'Indonésie à l'Irlande du Nord, du Moyen-Orient au Cachemire, de l'Inde au Nigeria, des Balkans au Sri Lanka, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, des hindous, des musulmans et des sikhs justifient l'usage de la violence en prétextant protéger leur identité religieuse et leurs intérêts. » En mars 1995, j'ai traversé une station du métro de Tokyo quelques minutes avant l'attentat au gaz sarin perpétré par des membres d'Aum Shinrikyo, une secte bouddhiste. Il est vrai que les violences sans précédent du siècle dernier étaient largement dues à des régimes athées dirigés par Staline, Lénine, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, etc. Mais aujourd'hui, la violence est associée à la résurgence de la religion. Il semble toutefois dangereux de lier religion et conflit, même si l'ennemi est Satan. L'Église militante a justifié la violence en prétendant combattre des gens considérés comme les ennemis du Christ, souvent juifs et musulmans. Ensuite, ces prières parlent de nous délivrer du péché originel. La seule mention de péché a tendance à hérisser les gens. Quand Claire Watkins essayait de parler du pardon du péché à ses étudiants, ils étaient très contrariés. L'un d'eux prit la parole. « Tout ce discours sur le péché fait que je me sens comme quelqu'un d'indigne, ou quelque chose comme ça. » Les autorités de la faculté demandèrent à Claire Watkins de ne pas employer le terme « péché », mais de parler plutôt de faiblesse, de négligence. Tout ce qui peut nous éloigner des tristes dommages psychologiques causés par les complexes de culpabilité, le manque d'estime de soi et la haine de soi. Nombreux sont ceux qui pensent que parler de péché, c'est risquer d'instiller chez les gens des sentiments négatifs et destructeurs. Ce langage de combat et de péché originel Est-il un reliquat d'une forme primitive de religion que nous devrions laisser tomber? Ou bien révèle-t-il quelque chose de plus concernant le mystère de l'amour dans lequel nous sommes baptisés? Dans le Nouveau Testament, la vie chrétienne est vue comme un conflit, une bataille, une épreuve d'athlétisme et un combat de boxe. Nous sommes pris dans un conflit entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, la vie et la mort. Ce langage religieux combatif semble contaminer notre foi et y verser une violence inévitable. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles tant de gens se sentent plus attirés par une spiritualité douce et bienveillante que par une religion souvent perçue comme fondamentalement agressive. La Bible est remplie de violence. Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent vu comme un guerrier assoiffé de sang, massacrant promptement les ennemis d'Israël. Tôt le matin, à Blackfriars, centre universitaire dominicain d'Oxford, je me demande souvent ce qui traverse les têtes endormies de mes frères quand nous chantons « Moab est le bassin où je me lave, sur Édom je pose le talon » psaume 60, verset 10. Le psaume 137 est connu pour sa finale avec cet horrible cri de vengeance contre Babylone, « Heureux qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc ». Que pouvons-nous faire d'un tel texte? Dans le bréviaire romain moderne, on l'a discrètement laissé tomber. Une paraphrase écossaise le dit ainsi. « Heureux soit le cavalier, chevauchant son destrier, qui saisira par les orteils tes enfants nouveau-nés et en frappera le rocher pour un carillon sans pareil. » Il nous faut situer ces textes dans la lente évolution de la foi d'Israël, la longue préparation à l'entrée en scène de Jésus, qui refusa de mettre les armées de Dieu de son côté lorsqu'il fut arrêté au jardin de Gethsémani, et qui nous a ordonné, quand nous sommes frappés, de tendre l'autre joue. Comme on l'a dit plus haut, la Bible n'est pas une collection d'affirmations littérales et factuelles sur Dieu. C'est la rencontre avec la parole de Dieu en personne. Nous lisons ces passages crus et sanguinolents comme des textes en marche vers l'aurore du matin de Pâques, lorsque Jésus, portant la marque de ses blessures, apparaît aux disciples pour leur dire « La paix soit avec vous ». Jean 20, 19. Des siècles de réflexion, de prières et de chants, d'exil douloureux et de libération ont été nécessaires pour que le langage soit prêt à concevoir cette parole de paix. Nous ne pouvons recevoir ces textes comme vrais, comme révélations, que si nous les situons dans le mouvement vers une vérité qui demeure toujours, même aujourd'hui, au-delà d'une totale compréhension. La vérité à laquelle nous avons affaire n'est pas saisie dans une suite maladroite d'assertions littérales, mais elle s'épanouit naturellement, comme un enfant qui passe l'âge des caprices de l'enfance et des emballements de l'adolescence pour entrer dans une vie adulte et paisible. Pour aider à comprendre comment s'est faite cette évolution, je vais présenter une histoire extrêmement abrégée de la violence dans la Bible. Les spécialistes pourront ne pas être d'accord sur les détails, les dates des textes bibliques, mais qu'importe. Je veux simplement évoquer le caractère dynamique de la vérité biblique, le processus graduel par lequel la non-violence de Dieu a été dévoilée. Étant donné l'accusation incessante de complicité avec la violence dont la religion fait l'objet, il vaut la peine de s'attarder un peu sur cette question. Dans la religion de nos ancêtres dans la foi, la violence la plus obscène se perd déjà dans la nuit des temps, lorsque les premiers textes ont été écrits. James Allison écrit « Il est désormais de plus en plus clair que pendant une grande partie de son histoire, le peuple, que nous appelons maintenant le peuple d'Israël, considérait le sacrifice des enfants premiers-nés comme partie intégrante de sa culture de base. » Fin de citation.